Chapitre 15. Owen enfile une chemise grise et un jean noir. Il se regarde dans le miroir de son armoire. Pas mal. Il pourra aller chez le coiffeur. Ses cheveux lui tombent un peu devant les yeux. Il est particulièrement pâle, mais en plein mois de février, cela n'a rien d'étonnant. Il est toujours blanc comme un cachet d'aspirine en hiver. Il a un rendez-vous au lycée dans 1h30. À part pour aller faire des courses, il n'est pas sorti de chez lui depuis 2 semaines. Quand il pense à ce qu'il attend, son ventre se noue. Pas seulement parce qu'il doit prendre le métro, s'asseoir en face d'inconnus et marcher dans la foule, mais surtout parce qu'il appréhende ce qu'on va lui dire. L'établissement a mené une enquête interne pour faire la lumière sur les divers incidents relatés par ses élèves. Ils veulent qu'il passe les voir une 30aine de minutes pour qu'ils puissent le tenir au courant de leurs avancées. « On ne peut pas faire ça par téléphone ?»«
Non, »
lui avait répondu Holly.
« Ça ne sera pas possible. Il faut que vous vous déplaciez. »
Il attrape ses maudites chaussures de sous son lit, là où il les a envoyées valser d'un coup de pierre à jeur 2 semaines auparavant. Elles sont décorées par un troupeau de moutons de poussière. Il prend le temps de bien les étudier, après tous ces jours sans les voir. Non, il y a décidément quelque chose qui cloche avec ses chaussures. Il ne peut pas les mettre. À la place, il opte pour des bottines noires à lacets, des chaussures confortables qu'il a déjà rafistolées à 2 reprises, car les semelles en caoutchouc se détachaient. Il prépare son petit déjeuner dans la cuisine. Une tartine de pain, du fromage. Tessie fait irruption alors qu'il range le beurre dans le réfrigérateur. Elle est revenue d'Italie la semaine dernière et a d'humeur maussade depuis son retour. « Tu ne risques pas d'être en retard. Il est presque 10 heures, tu sais. Je commence à 11 heures. » Il ne lui a rien dit. Pourquoi l'aurait-il fait? Elle le jugerait, lui raconterait des choses qu'il n'avait aucune envie d'entendre sur sa mère, rendrait la situation encore pire. Des horaires de tir au flanc, lance-t-elle en le frôlant sur son chemin vers l'évier, où elle attrape une tasse renversée sur l'égouttoir avant d'en examiner l'aspect, de la rincer et d'allumer la bouilloire. Tessie est la grande sœur de sa mère, morte quand il avait 18 ans. Son père vit dans le sud de Londres avec une autre femme et un autre fils. Il a habité chez eux 1 mois après le décès de sa mère. Il ne s'est jamais senti aussi seul de sa vie. Tessie, le jour de l'enterrement, lui avait marmonné que s'il en avait besoin, il serait toujours le bienvenu chez elle, qu'elle avait une chambre pour lui dans son appartement. Elle s'était sentie obligée de lui tendre la main à l'époque, mais cela faisait 15 ans désormais qu'elle l'avait sur le dos. Elle avait 40 ans quand il s'est installé chez elle. Aujourd'hui, elle en a 56, mais elle se comporte comme si elle en avait 10 de plus. Tessie ne s'habille jamais en legging et sweat à capuche. Ses cheveux fins et clairsemés sont gris acier, et elle fait les boutiques dans les magasins de Hampstead où elle se procure d'amples tuniques en lin, des pantalons larges et des chapeaux mous. J'ai croisé Ernesto hier soir. Owen hoche la tête. Ernesto est leur voisin du dessus, un vieux garçon. Il m'a dit que la police était venue il y a 2 semaines. Il t'a vu leur parler. C'était à quel sujet? Owen inspire profondément. Rien de particulier. Un problème dans le quartier. Il faisait une enquête de voisinage. Un problème? Répète-t-elle, incrédule. De quelle nature? Il jette la croûte de sa tartine à la poubelle. 33 ans, et pas fichu de manger la croûte du pain. Je ne sais pas. Une agression, un truc de ce genre. Une agression sexuelle? Oui, je crois. S'ensuit une petite pause qui en dit long, et pendant ce silence, il entend sa tante inspirer et voit une pensée traverser son esprit si rapidement que sa tête bascule en arrière. Ses yeux se ferment à moitié, puis l'idée disparaît. J'espère qu'ils vont arrêter le coupable. Je ne comprends pas ce qu'il se passe dans ce quartier. On était en sécurité avant. Après une attente insoutenable de 5 minutes à l'accueil, on invite Owen à entrer dans le même bureau que la dernière fois. Il y a toujours M. Bryant, Holly et Clarisse, mais aussi une autre femme nommée Penelope Ophélie, une médiatrice. Pourquoi a-t-on besoin d'un arbitre? Pour des questions de transparence. De transparence. Owen cligne lentement des yeux et se mord l'intérieur des joues. Asseyez-vous, lui recommande Jed. Comment allez-vous? Lui demande Holly. Avez-vous pu vous reposer? Pas vraiment, non. Le sourire d'Holly se fige. Elle se détourne aussitôt. Bien. Merci de vous être déplacé aujourd'hui, Owen. Comme vous le savez, nous avons mené une enquête approfondie sur les allégations de 2 élèves concernant votre comportement à la fête de Noël qui s'est tenue au mois de décembre. Owen gigote sur son siège, croise les jambes, puis les décroise. Il s'est repassé en boucle la soirée dans ses moindres détails depuis qu'il a appris ce qu'on lui reprochait, et il ne comprend pas en quoi son comportement festif a pu paraître déplacé. Pourtant, puisque toutes ces personnes se réunissent dans ce bureau, prennent le temps de le recevoir, sollicitent un arbitrage extérieur, elles doivent bien le croire capable d'un tel comportement. Il décroise les jambes pour la troisième fois. Il sait que cela traduit sa nervosité et son malaise. Ses réactions sont parfaitement compréhensibles vu la situation, mais elles peuvent aussi être interprétées comme un aveu de culpabilité. Il comprend à ce moment qu'il aurait dû parler de ce qui lui arrivait. Depuis leur dernière rencontre, les choses ne se sont pas calmées, bien au contraire. « Nous avons interrogé plusieurs personnes qui ont participé à cette fête », reprend Holly. « Malheureusement, ces nouveaux témoignages vont dans le sens des allégations initiales. » Il hoche la tête, puis baisse les yeux. « Plusieurs témoins vous ont vu toucher les deux élèves en question. D'autres vous ont vu les éclabousser de votre sueur. Selon eux, ces actes étaient délibérés, et il semblerait que vous ayez agi ainsi de façon répétée, bien que les deux élèves vous aient demandé d'arrêter. » De plus, nous avons également reçu des témoignages concernant des comportements problématiques pendant vos cours. Les élèves estiment que vous favorisez les garçons tout en rabaissant ou ignorant les filles, en les notant plus durement que leurs camarades masculins et en ne valorisant jamais leur travail. Vous tiendriez régulièrement des propos inappropriés. Il la dévisage, atterré. Pardon ? Holly jette un coup d'œil à son carnet. Vous auriez dit à certains garçons de se comporter comme de vrais hommes ? Vous auriez recours au terme sexy pour caractériser certains codes informatiques, vous appelleriez les filles des nanas. Certains élèves seraient qualifiés de fous ou de malades. Mais vous vous moqueriez des élèves qui ont des allergies alimentaires, qui sont intolérants, et de celles et ceux qui sont véganes. Owen ferme les yeux et soupire. « Incroyable !» murmure-t-il. Holly le scrute, le doigt posé sur la dernière ligne de la page de son carnet. Et des propos qui peuvent sembler blasphématoires. Blasphématoires ? Non mais, nom de Dieu. Prenant conscience de sa bourde, il baisse à nouveau les yeux. Alors, qu'est-ce qu'il va m'arriver maintenant ? Pendant un moment, personne ne lui répond. On s'échange des regards. Holly sort un document de sa pochette et le lui tend. Nous souhaitons que vous suiviez cette formation, Owen. Cela dure une semaine et vous permettra de travailler tous les sujets dont nous avons parlé aujourd'hui. Si au terme de cette formation nous sentons que vous avez évolué, que vous avez compris ce que l'on peut dire et faire dans un établissement scolaire, ce qui est inapproprié, nous pourrons discuter de votre retour. Mais il faut que vous vous investissiez complètement. À 100%. Lisez cette brochure, dites-nous ce que vous en pensez. Vous êtes un membre important de notre équipe, Owen, et nous n'aimerions pas avoir à nous séparer de vous, conclut-elle avec un rictus. Owen fixe le document sans le voir. Les mots tourbillonnent sous ses yeux. Il pense au terme « lavage de cerveau ». Une semaine enfermée dans une salle avec des pédophiles qu'il faut reprogrammer afin de les convaincre que les véganes sont des êtres supérieurs et que les femmes peuvent avoir un pénis. « Non », pense-t-il. « Hors de question. » Il rend à Holly sa brochure. « Merci, mais je préfère encore me faire virer. » Après son départ du lycée, Owen marche sans but pendant un bon moment. Il n'arrive pas à se résoudre à prendre le métro. Il ne peut pas se confronter à sa tante qui le scrutera par-dessus ses lunettes à monture d'écailles et ne manquera pas de lui demander ce qu'il fabrique à la maison sitôt. Il ne supportera pas de passer le reste de la journée assis dans son fauteuil cabossé, devant son écran. Il pourrait les appeler, dire qu'il a changé d'avis, accepter la formation. Il n'est pas trop tard. Mais dans le meilleur des cas, il récupérera son boulot et aura en cours tous les jours ses deux élèves parmi une foule d'adolescents révoltés qui le considèrent comme un pervers fasciste. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Owen a des économies. Tessie lui fait toujours payer le même loyer qu'il y a 15 ans, quand il n'était qu'un grand ado en deuil. 25 livres par semaine. Il n'a pas de vie sociale, pas de passe-temps onéreux, et il ne s'est pas ruiné en invitant des femmes au restaurant. Quelques milliers de livres dorment sur son compte en banque. Pas assez pour louer un bel appartement, mais cela devrait suffire pour vivoter sans revenu pendant quelques mois. Non, il ne veut plus de son travail. Il ne se battra pas pour le garder. Il sort son téléphone. Papa, c'est moi. S'ensuit une courte pause, le temps dont son père a besoin pour se souvenir de l'existence de son fils.
Ah, bonjour Owen. Comment vas-tu ?
Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Des mois ?
Je sais,
répond son père d'un ton contrit.
C'est terrible, le temps file si vite.
Tu as passé un bon réveillon ? Enchaîne Owen rapidement, sans laisser à son père l'occasion de trouver une autre excuse à leur mauvaise relation que l'absence d'intérêt qu'il a pour son fils.
Tu sais bien, toujours à courir à droite à gauche. Je suis désolé.
Pas de problème, l'interrompt Owen. Il ne veut pas entendre encore une fois ce sempiternel refrain. Sa femme malade, son autre fils, en bon exemple de la génération Z, perdu dans la drogue et les méandres de son identité de genre.
C'était vraiment compliqué cette année, fiston. On va plutôt rester entre nous.
L'idée que pour son père, rester entre nous impliquait qu'il tienne à l'écart l'un de ses fils l'avait passablement heurté.
Enfin, toi, tu...
J'étais tout seul.
Mince, je pensais que tu serais avec Tessie ou...
Non, Tessie était en Toscane, et moi tout seul. Mais pas de problème.
Je vois. Bon, c'est dommage. J'espère que Noël prochain sera un peu moins...
Intense ?
Oui, c'est ça. Et ton travail, ça va ?
J'ai démissionné aujourd'hui. La direction m'accusait de harcèlement sexuel. Son père manque de s'étrangler. Apparemment, j'ai caressé les cheveux d'une élève à la soirée de Noël et j'utilise un vocabulaire inadapté pendant mes cours. Si tu veux mon avis, être un homme normal n'est plus toléré. Il paraît qu'on doit tous se comporter comme des robots et peser chacun de nos mots. De nos jours, les femmes ne peuvent plus rien supporter. Plus rien du tout. Il vocifère en pleine rue. Il savait que l'émotion allait le submerger. C'est pour ça qu'il a appelé son père. Son père sait parfaitement qu'il a abandonné son fils, qu'il a été un parent merdique. Alors parfois, il lui sert de défouloir. Il laisse son fils crier sans broncher. Il ne lui donne pas le moindre conseil pour améliorer la situation, mais il encaisse. Et pour l'instant, c'est ce dont Owen a besoin.
Fiston, mais c'est complètement ridicule, non ? Le politiquement correct, c'est de la folie, voilà. Mais est-ce que démissionner était la solution ? Comment est-ce que tu vas faire pour décrocher un nouveau poste ?
Owen grimace en entendant cette question. Puis il pense à Tant pis pour ta gueule, déambulant dans sa petite ville de snob, écrivant son blog malgré son boulot débilitant dans un bureau pourri. Il a l'air relativement heureux. Il a l'air de gérer la situation. Je chercherai autre chose, mais c'est tellement...
Oui, c'est ridicule. Complètement.
Son père se tait. Il veut qu'Owen comble le silence, mais il en est incapable. Il attend que son père reprenne la parole.
Eh bien, Owen, ça fait plaisir de t'avoir au téléphone. Je suis désolé que tu traverses un passage difficile. Il faut qu'on se trouve un moment, absolument. Et puis, ton anniversaire...
C'est le mois prochain.
Voilà, il faudra fêter ça.
D'accord.
Fiston ?
Oui ?
Ces accusations, tu sais, de harcèlement, ce n'était pas fondé, hein ?
Owen soupire et s'affaisse en arrière, contre un mur. Non, papa. Non.
C'est bien ce que je pensais. Au revoir.
Bye. Owen se redresse. La colère qu'il a dirigée contre son père le temps d'un coup de téléphone l'envahit de plus belle, avec toute sa force, sa noirceur, sa cruauté. Ses veines palpitent. Il se remet en route d'un pas vif vers le métro. Il s'apprête à s'y engouffrer quand il aperçoit, de l'autre côté de la rue, le scintillement doré d'un pub. Il est 12:20. Owen ne boit pas beaucoup. Il aime prendre un verre de vin avec son repas ou les rares fois où il sort avec ses collègues, mais il ne boit jamais pour boire. Il voit sa chambre, si froide, et Tessie, toujours en train de lui chercher des noises. Il pense à Tant pis pour ta gueule, tranquillement assis dans le coin d'un pub avec une pinte, observant ses semblables, apprenant, réfléchissant, existant tout simplement. Il l'imagine grand, avec des épaules larges, des cheveux courts et bien coupés, et peut-être une petite barbe ou une moustache. Il porte une chemise, un jean qui a déjà bien vécu, des chaussures de marche. Il essuie d'un doigt un peu de mousse qui s'est déposée sur sa lèvre supérieure, replace précisément la pinte sous le sous-verre, au centre. Il lève les yeux. Il observe, apprend, réfléchit, existe. Owen tourne le dos à la station de métro, avance vers le passage piéton, attend que le feu passe au vert et se réfugie dans la chaleur du pub. Une pinte, s'il vous plaît. Il trouve une table. Il s'installe.